Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement ou si vous nous écoutez pour la première fois. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec l'humoriste Cartman. Il vient nous parler de son nouveau spectacle, ce qui est son premier d'ailleurs. Il s'appelle One. Ceci explique peut-être cela, qu'il joue actuellement sur la scène du théâtre Trévis jusqu'au 4 janvier. Puis dans Les Indispensables, un super-héros qui serait devenu super ringard et de la musique avec un album hommage à Michel Legrand de l'accordéoniste Richard Galliano. Et c'est maintenant le journal de la culture, ce n'est pas Hélène qui est là, Hélène est un petit peu souffrante, Hélène Manarino, elle sera là avec nous vendredi ou lundi, c'est Louise Bernard que je suis absolument ravi d'accueillir en
Bonjour
ce lieu
Philippe.
Et place. Bonjour,
Bonjour
Louise.
À tous.
Et une page se tourne pour un prestigieux prix littéraire.
Mais oui, puisque l'Académie Goncourt a annoncé hier le départ de Bernard Pivot à la fin du mois, président depuis 5 ans, membre du jury depuis 15 ans, il était devenu une figure de cette institution, premier non-écrivain à intégrer le Goncourt. Alors la raison de son départ, il la donne au micro de Nicolas Carreau.
Je quitte l'Académie Goncourt parce que l'âge est arrivé, je suis dans ma 85e année, c'est un âge quand même qui est assez important et qui justifie que je laisse la place à quelqu'un de plus jeune que moi, de beaucoup plus jeune que moi, je l'espère. Et puis, par une sorte d'égoïsme bien naturel, quand on prend de l'âge, de retrouver le plein usage de mon temps, notamment l'été, quand il faut lire, au lieu de profiter de sa famille, des vacances, de la mer. Alors que bien souvent, pendant toutes ces 15 années, le devoir du Goncourt l'a emporté sur les plaisirs de l'été.
Alors, ça n'était pas une surprise pour ses camarades. Ils les avaient avertis dès le mois de juin. Bernard Pivot reste tout de même membre d'honneur. Et pour connaître la nouvelle ou le nouveau président, il faudra attendre, Philippe, le vote le 21 janvier. Un nouveau membre sera également intégré pour que le jury reste au nombre de 10.
Et puis Bernard Pivot a fait un tweet très émouvant dans lequel il dit à 84 ans « Je vois bien que les étés, les beaux étés, seront peu nombreux ». On parlait d'un départ, mais l'actualité culturelle, c'est également un retour.
Avec sa voix unique, on la reconnaît
ah
tout
oui.
de suite. Hein.
En deux syllabes, on la reconnaît.
Patricia Cass, bien sûr. Alors, ses fans sont en émoi, je vous explique. Les petits malins ont repéré sur plusieurs sites de billetterie des places à vendre pour plusieurs concerts avant 2021.
En 2021,
ouais.
On n'est même pas en 2020.
Non, et avant toute annonce officielle. Et effectivement, sur ces sites, on peut y voir une affiche en noir et blanc qui indique Cass World Tour 2021 avec une photo de la moitié du visage de l'artiste, lunettes de soleil sur le nez. Seules indications, 3 ans après sa dernière tournée mondiale, Patricia Cass revient avec un nouveau spectacle d'une intensité exceptionnelle comme elle seule sait les offrir à son public. Et hier soir, la chanteuse a enfin officialisé la nouvelle en partageant cette fameuse affiche sur ses réseaux sociaux ainsi que les dates de ses concerts, les 29 et 30 janvier 2021 à Paris, le 4 février à Lille, le 17 à Bourges et le 19 à Tours 2021. Un mystère demeure, y aura-t-il un nouvel album d'ici là ?
Le dernier album s'était écoulé assez péniblement à 60 000 exemplaires.
Exact.
Un autre retour décidément, celui d'un humoriste, Gad Elmaleh, information de nos confrères du Parisien.
Alors ce ne sera pas au cinéma, ni au théâtre, et plus question des États-Unis, c'est bien un retour à ses premiers amours, le one-man show, et en France donc. Ce sixième spectacle s'appellera D'ailleurs, ce sera un mélange de stand-up et de personnages, comme à ses débuts. D'après le Parisien, Gad Elmaleh évoquera les réseaux sociaux, la presse, le rêve américain, et reviendra de manière drôle et honnête, je cite Gad Elmaleh, sur les accusations de plagiat à son encontre. Première date prévue le 28 avril prochain à Roubaix, avant une tournée d'une soixantaine de dates, dont de nombreux zéniths, et la billetterie sera ouverte dès vendredi.
Et maintenant une nouvelle qui va ravir, comme on dit, petits et grands enfants. Hakuna Matata.
La magie Disney va s'emparer des plus grandes salles de spectacle de France en 2020. Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas et bien d'autres grands classiques seront projetés pendant 2 heures sur un écran géant, 20 mètres de haut, rien que ça. Les chansons mythiques seront, elles, interprétées par un orchestre symphonique et des chanteurs. Près de 30 dates sont déjà prévues pour ces ciné-concerts partout en France à partir d'octobre prochain.
Et puis J-2 avant la sortie de l'album d'un groupe mythique.
You!
Philippe, je vois dans vos yeux que vous avez reconnu les Who.
Bah évidemment, ça existait, ça préexistait à la série.
Vous êtes un expert.
Non, pas spécialement, mais ça préexistait.
Petit jeu de mots, puisque c'est le générique de la série. Ouais. Humour. Vendredi sort enfin leur nouvel album, 13 ans après le dernier. Le titre, Who, c'est assez efficace. Hein. Heureusement qu'ils ont eu 13 ans pour trouver le nom de cet album. Le guitariste emblématique du groupe, Pete Townshend, a confié que cet album n'avait pas vraiment de thème, de concept ou d'histoire, mais c'était juste une suite de chansons écrites pour donner de l'inspiration à son chanteur Roger Daltrey et le mettre au défi. Il nous avait déjà fait patienter ces derniers mois en nous faisant découvrir deux titres, Ball and Chain et plus récemment All This Music Must Fade.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et Philippe Vondel, on est très heureux d'accueillir Cartman dans Culture Média.
Mais d'abord, question préliminaire. Bonjour Cartman.
Bonjour.
Question préliminaire, comment faut-il vous présenter Cartman avec votre pseudonyme ou votre vrai nom, Nicolas Bonaventure Chiatoni, c'est ça?
C'est ça, c'est d'origine corse. Je suis le seul corse avec un nom de chanteur de zouk, mais bon, c'est comme ça.
Je pose la question parce que vous montez sur scène pour votre premier one-man show, il va s'appeler One. C'est au théâtre Trévise jusqu'au 4 janvier. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les affiches de votre spectacle?
Il y a écrit Cartman. Mais moi, ce que je voulais, c'est que les gens viennent rencontrer Cartman et qui repartent en ayant rencontré Nicolas Bonaventure. C'était un peu ça le défi. Alors ça ne veut pas dire que je voulais absolument parler de moi, c'était pas ça, mais je trouvais qu'à travers mon histoire, un jeune de 40 ans qui en 2019 aujourd'hui subit un peu ce monde, et il y avait des choses à dire.
Tu sais qu'il y a des jeunes de 17 ans qui disent, tiens, il y a un jeune de 40 ans, on parlera de tout ça. Vous êtes animateur de radio, de télé, humoriste, comédien. Pour qui ne vous connaîtrait pas, je vais revenir au printemps 2013. Le groupe Daft Punk allait triompher dans le monde entier avec ceci. Évidemment, vous avez reconnu Get Lucky, Daft Punk avec Nile Rodgers à la guitare, sublime tube planétaire, numéro 1 dans le monde entier, sauf en France, où Daft Punk s'est fait coiffer au poteau par ceci.
Et quand il pète, il trouve son slipper. Et quand il pète, il trouve son slipper.
Céline Dacosta est morte de rire.
Mais je comprends.
Et on a reconnu la chanson de Sébastien Patoche, c'est évidemment un pseudonyme puisque c'est vous qui vous cachiez derrière ce tube de l'été. Ça a fonctionné tellement bien qu'un album est sorti dans une vraie maison de disques. Il est devenu disque d'or puis disque de platine. Rien que le titre fait ma joie.
C'était J'emmerde les bobos.
Voilà.
On a été loin.
Alors on vient à votre actualité. On peut toujours vous voir dans l'émission d'Arthur Vendredi Tout est permis.
Ouais, tout à fait.
Mais surtout, vous allez monter sur scène avec One, Théâtre Trévise jusqu'au 4 janvier. Ça fait des années qu'on vous disait de monter sur scène. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé cette fois?
C'est toujours un peu. Faut quand même se mettre un coup de pied au cul pour monter sur scène. C'est un peu comme le saut en parachute. C'est-à-dire, on se dit je vais le faire. Et puis à un moment donné.
Parce qu'il faut avoir des textes. Il ne suffit pas de monter sur scène.
Non,
il faut être drôle.
Il faut avoir des
textes.
Et puis c'est surtout qu'on ne peut pas arriver avec une heure et demie comme ça direct. Parce que forcément, on se plante. Quoi. Donc moi, j'ai fait des plateaux d'abord. J'ai testé des petits morceaux de spectacle, je me suis dit de quoi je veux parler. Alors j'avais plein de petits sujets que j'ai abordés, la télévision, la radio, l'adolescence et tout. Et puis je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus rire, c'était parler de mon adolescence, de mon âge de jeune adulte, de mon expérience à la télé ou à la radio. Et, c'est, et le spectacle s'est construit autour de ça. C'est-à-dire un homme de 40 ans qui regarde un peu en arrière, qui essaye de ne pas être nostalgique et en même temps qu'il est un peu, qui partage ça avec les gens.
Vous comparez votre adolescence avec celle des ados d'aujourd'hui. Par exemple, quand un morceau de musique vous et nous plaisait, il n'y avait pas l'application Shazam.
Ah non, pour notre génération, non, nous, il fallait qu'on aille chanter au vendeur de la Fnac pour savoir quel était le titre du morceau.
Non, mais je m'adresse aux jeunes qui nous écoutent, c'est pas une vanne.
Non, c'est la vérité.
Vraiment.
Mais même pour faire, aujourd'hui, tout le monde fait des playlists. Nous, on faisait des compiles à l'époque.
Bien sûr.
Une compile, la différence entre une playlist et une compile, une playlist, ça prend 5 minutes à faire. Une compile, on en avait pour une semaine. Minimum.
Ça prend le temps réel.
Voilà,
ça prend le temps.
Il trouver une cassette où on peut enregistrer, c'est-à-dire une cassette où il y a les languettes. S'il n'y a pas les languettes, il fallait mettre du scotch. Sinon, il fallait mâcher les petites boulettes de papier qu'on mettait dans les trous. Il fallait mettre la cassette dans l'étophone, rembobiner. Alors moi, je ne pouvais pas parce que j'avais un magnétophone de pauvre, il ne faisait pas rewind, il faisait que fast forward. J'étais obligé de rembobiner avec un crayon. Bon, voilà, tout ça, c'est des galères que seule notre génération a connues. Et moi, j'aime bien partager ça avec le public, ça me permet de comparer.
Et on pense qu'il y a des choses qui sont universelles et pas forcément. C'était différent également pour la drague. On va entendre un extrait du spectacle.
La dernière fois, sur le plateau de Vendredi, Tout est permis, il y avait un gamin de ton âge d'ailleurs qui avait 18 ans. Il draguait sur Instagram. Et le mec, bon, il fait pas de texto, hein, il envoie des smileys. C'est comme ça qu'il attaque. Démarre smiley avec les cœurs dans les yeux. La fille, elle répond smiley avec les mains en l'air, comme ça, vous voyez lequel? Là, il envoie aubergine. Et elle répond danseuse de flamenco. Moi, je me suis dit, c'est pas possible, il joue à pyramide ou quoi? Je comprends rien. Et à un moment donné, il a fait un truc de dingue. Il a pris son téléphone, il l'a mis dans son slip. Non. Il a fait une photo de sa teub et il lui a envoyé. Je lui ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Il me fait, genre, t'as jamais fait ça quand t'avais mon âge? Ah non, j'ai jamais fait ça quand j'avais ton âge, mon pote. Je te le dis, franchement, j'ai jamais fait ça. D'ailleurs, même si j'avais voulu faire ça, Il fallait que j'aille acheter un appareil jetable.
En plus, c'est vrai, c'est la vérité ce que je raconte.
Et vous l'avez vraiment fait? Non.
Ça, non. Non.
Parce qu'après, le problème de l'appareil jetable, c'est qu'après, il faut aller chercher la photo chez le vendeur.
Ah, bah, fallait les faire développer, ouais. Mais quand il les rendait, il allait dire bah, bravo, c'est bien, c'est du propre. C'est du propre. J'ai pas la peine de marquer Safari sur la pellicule. J'ai bien vu que c'était pas un éléphant, monsieur. Je suis pas con. Hein.
Vous racontez aussi votre vie à la radio, à la télé.
Ouais.
Est-ce que vous racontez la manière, parce que moi je le sais, dont vous alliez obtenir des augmentations quand vous étiez chez Fun Radio?
Non, je ne le raconte pas dans le spectacle, mais ça c'est un truc très vrai. J'avais trouvé un moyen très simple, hein, c'est que je me mettais nu complètement. J'étais réalisateur à l'époque, donc j'étais derrière une console et j'avais dit à la direction, je me souviens c'était le jour en plus de la visite des investisseurs. Voilà. Et j'avais dit à la direction, c'est simple, si je n'ai pas mon augmentation, je reste travailler. Mais je ne me rhabillerai pas. Et pendant 10 minutes, ils ont rigolé. Et puis après, ils ont compris que j'étais sérieux. Et à un moment donné, il y a carrément le directeur de la station qui est venu me voir, qui m'a dit, viens dans mon bureau tout de suite. Je ne me suis pas rhabillé. Je suis rentré dans le bureau à poil. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux exactement? Et je lui ai dit ce que je voulais. On a réussi à négocier un truc. J'ai remis mon slip au moment où les mecs arrivaient.
Oh, ouais. Wow.
C'était beau. Hein.
Cartman est habillé. Il n'est pas payé pour venir ici. Et tant mieux, on enchaîne.
Oui, c'est Cartman qui reste avec nous. Et peut-être que grâce à vous, Philippe, on va en savoir un petit peu plus sur notre invité dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est Cartman qui est l'invité de Culture Média ce matin. Il est sur scène jusqu'au 4 janvier, sur la scène du Trévis pour son one-man show qui s'appelle One.
One. Et One, c'est pas une marque de voiture, mais vous racontez, vous amusez, de la voiture de votre père. Il avait quoi comme voiture?
Ah, mon père, il avait la voiture la plus moche, mais aussi la moins chère de tous les temps. Il avait une AX.
Ouais.
C'est-à-dire, c'était vraiment. Les concepteurs devaient être sur deux projets, à mon avis. Un télésiège et une poubelle. Les fiches se sont mélangées. Ça a donné la X. C'était vraiment la pire des voitures qui existent. Et en plus d'être moche, ça n'était pas fiable du tout parce que la nôtre, il y avait un problème électrique. Je vous promets, on n'a jamais su d'où ça venait. Que mon père, il démarrait, ça éjectait la cassette de l'autoradio.
Non.
Ouais. Donc quand on partait en vacances, il montait, il démarrait, il nous disait « Couchez-vous !» Sinon, tu te prenais le best-of de Cabrel en pleine gueule.
Voilà. Je salue Citroën qui est annonceur ici chez nous et qui a fait des énormes progrès.
Bien sûr, mais ils le savent que la X, c'était pas leur meilleur.
Mais il était content de sa caisse ou
pas? Lui, il était très content. Mais nous, on habitait dans une cité dans le 93. C'était le meilleur antivol du monde, la X. Personne n'en voulait. C'est vrai, c'est la vérité.
Vos premiers émois devant la télé, c'était Club Dorothée ou c'était autre chose?
Il y avait un peu des deux. Il y avait Club Dorothée parce qu'il y avait quand même un truc dans le Club Dorothée. Alors, peut-être pour les plus jeunes qui écoutent, le Club Dorothée, c'était une émission pour les enfants.
Ouais.
Animé par des adultes, sauf que les adultes, ils avaient un QI inférieur à celui des enfants qui regardaient, en fait. C'était ça la particularité du Club Dorothée. Et c'est vrai que ça jouait, la série du Club Dorothée, bon, ça jouait très mal. C'est pas avec ça que c'était vraiment Benjamin Castaldi dans la pub comme j'aime au niveau du jeu d'acteur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc moi j'ai eu mes premiers émois là-dedans et aussi devant le film érotique du dimanche sur M6.
Ça, c'est plus normal. Parce que c'est fait pour ça.
Ouais, mais enfin, notre génération, quand même, vraiment, c'était le Graal, l'érotisme, le porno et tout. C'était vraiment un truc. Aujourd'hui, les jeunes, ils comprennent pas, c'est gratuit, mais nous, c'était payant le porno à l'époque. Donc, voilà, c'était un peu. Voilà, donc moi j'ai eu mes premiers émois devant Joy à Hong Kong, Joy en Afrique. Voilà, je sais pas, c'était Martine en fait, elle faisait le tour du monde, Joy.
Et alors, la calvitie, parce que vous avez une particularité. Oui. Je l'ai lu, je l'ai relu cette phrase. Racontez votre particularité biologique, Cartman.
Bah, moi j'étais chauve à 14 ans, c'est ça que vous voulez me faire dire?
Ouais. Non, non, c'est mieux que ça. C'est que vous avez été chauve avant d'avoir votre première expérience sexuelle. Et je me suis demandé si vous étiez resté très, très, très longtemps innocent ou si vous avez été chauve très jeune.
Bah, c'est un peu des deux en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, moi déjà j'ai été chauve très jeune. Ouais. Je me suis très vite rendu compte, j'avais les golfs. Je vous jure, à 14 ans, j'avais les golfs.
Déjà, je sais pas ce que c'est les golfs.
Vous savez, c'est les petits creux là, ici, là, qui arrivent, que vous n'avez pas, vous d'ailleurs.
Non,
si vous savez, nous les chauves, c'est un peu.
Moi, j'ai beaucoup de chance.
Un peu comme les homos, nous les chauves, on sait qu'il va devenir chauve alors que le mec n'est pas encore au courant.
Ah ouais.
Bah, vous ne le serez jamais, par exemple. Ouais. Je peux vous le dire.
Merci. Voilà.
Mais moi, j'ai été chauve très jeune. Très jeune.
Et du alors, coup, c'est très dur.
Ma première expérience sexuelle, je me souviens très très bien que donc j'étais dodo. Et la fille m'a dit, oh, tu perds tes cheveux. Voilà.
Ouais.
Et je peux vous dire que ça fait bizarre, surtout
quand vous juste un mot. Qu'est-ce que vous foutiez dodo avec une fille?
Non.
Non mais vous me racontez votre expérience sexuelle. Non, moi je rebondis sur ce qu'on dit.
C'est très compliqué de vous expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y avait un miroir dans la chambre.
Ok, c'est bon, on a compris.
Vous avez compris, voilà, c'est bon.
Ça suffit.
Je ne vais pas aller plus loin que ça.
Vous l'avez peut-être constaté, Hélène Manarino est absente aujourd'hui. Elle est un peu souffrante. Elle va revenir lundi sans faute. Alors un indice, il n'y a pas que. Elle m'a dit ne dis rien, mais quand même je le dis, il n'y a pas que les grèves en décembre. Il y a aussi la gastro. Bref, il n'y aura pas de portrait inattendu de l'invité.
On l'embrasse.
Mais avec tout ce qu'elle sait, ouais, je l'embrasse avec tout ce qu'elle sait sur vous et que moi aussi je sais.
On peut
aller loin. C'est vrai que vous êtes toujours persuadé d'avoir les cheveux longs.
Alors, c'est pas que je suis persuadé d'avoir les cheveux longs, c'est qu'on m'a fait remarquer que quand je sors de la piscine, je fais toujours le geste des mecs qui ont la frange, vous savez, mais c'est instinctif, Et c'est vraiment le mec qui. C'est vraiment, je fais un déni de calvitie, en fait. Voilà, tout simplement.
Est-il vrai, j'arrive pas à croire que ce soit vrai, que vous détestez les ballons de baudruche?
Ouais, j'ai une vraie phobie de ça. C'est-à-dire que c'est un.
Et pire encore, il paraît, le son.
Ah, mais c'est terrible. C'est terrible. Ah ouais, mais attendez, c'est pas n'importe quel son.
Mais quoi, quand on le gonfle ou quand on se dit
alors justement, ça dépend. Je sais que là, il y a peut-être. Non, voilà. Et en régie, ils vous ont fait signe qu'ils n'allaient pas envoyer le son. Il y a un son, moi, qui me fait serrer des dents où je peux mourir. C'est le son des doigts qui griffent le ballon.
Ah ouais.
Le gonflage, ça va à peu près. Tout le reste, je peux vraiment taper un enfant s'il est à côté de moi et qu'il joue avec un ballon. C'est vrai que je vais plus au McDo
mais
pour
le
les anniversaires.
Qu'on éclate.
Ah, le ballon qu'on éclate, c'est un enfer. C'est un...
Non.
Voilà. Je veux que j'ai... Voilà, j'ai vraiment peur.
Mais comment se fait-il que ça vous fasse peur,
mais
que ça vous gêne?
Mais c'est une vraie
folie.
Hein.
D'enfance. Non, mais petit, vous avez été torturé par Christian Desada avec des ballons.
Non, je sais pas, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que j'ai été abusé par un clown, par exemple, ou quelque chose comme ça? Mais non, pas du tout. Il paraît que c'est une vraie phobie qui vient de la toute petite enfance.
Voilà. Je sais qu'on a créé pour vous une pizza avec un goût absolument dégueulasse pour tout le monde. Vous pouvez dire le. Vous savez que c'est vrai. Quand il entre dans une pizzeria, il y a un gars qui lui sert une pizza au goût.
Crème fraîche, ananas, merguez.
Comment moi, on peut manger
je...
ça?
Mais alors, je vais vous dire.
Mal, moi,
non, mais l'ananas, déjà, ça divise les Français.
Ouais.
On sait que c'est un. Voilà, d'ailleurs, je pense que demain, pendant la grève, évidemment, on va en parler, c'est obligatoire. Voilà. Mais crème fraîche, ananas, merguez, c'est vraiment à level, c'est vraiment la Ligue des champions de la pizza. Il n'y a que les gens qui ont du goût qui peuvent comprendre.
Et on peut penser qu'avec le temps, ça s'améliore. Vous êtes mariés. En général, quand on vit en couple, on a des goûts plus fins.
Ouais.
Est-il vrai que vous ne mangez toujours aucun légume?
Alors, ah là là, ça, vous avez ma femme au téléphone.
Alors. Non, pas du tout.
Non, c'est pas vrai. Alors, ma femme,
il paraît que s'il y a des poireaux dans le frigo, ça vous pose un problème.
Ah ouais, non.
Des poireaux dans le frigo, vous pouvez faire un malaise.
Ah bah ouais, mais non, mais c'est pas
comment
possible.
Comment ça, mais
non, mais
délicieux.
Les poireaux. Non, mais les poireaux, alors il y a les poireaux vapeur. Vous avez déjà senti l'odeur des poireaux vapeur?
Sans bon.
Oui, mais
c'est.
Pardon. Non, mais d'abord, les poireaux. Non, mais d'abord, les poireaux sont pas vapeur dans le frigo. Non, mais ils sont pas vapeur dans le frigo. Ils sont vapeur, on les sort du frigo et ils deviennent des poireaux vapeur.
Alors, il y a des fruits que je trouve très sympas. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Des légumes, pardon. Vous voyez, j'arrive même pas en parler tellement ça, c'est loin de moi. Des légumes que je trouve très sympas, comme la courgette par exemple, ça je trouve ça sympa. Il y a des légumes que je peux pas blairer, comme le chou-fleur par exemple. Voilà, ça me rappelle l'école, les choux de Bruxelles, ça me rappelle l'école, je peux pas en manger.
On est en décembre, vous êtes heureux?
Ah, très heureux.
Il paraît que vous fêtez Noël depuis septembre.
Putain, mais moi, ouais. Moi, je.
Oh là là,
ça c'est magnifique.
Moi, vous adorez ce genre de musique, mais c'est pas possible.
Je le mets dans, vous savez, dans ma voiture, ce que c'est ma playlist là.
Dites-moi.
C'est la playlist Christmas is Coming de Spotify.
C'est pas vrai.
Je vous promets que c'est vrai, mais je me fais la totale. Mais même Mariah Carey.
Toutes les merdouilles de Noël.
J'adore ça. Je regarde les feuilletons de Noël sur TF1 et sur M6, genre un papa pour Noël, un amour de réveillon et tout ça. Enfin, c'est tous les mêmes, vous savez, où il y a une.
Non, mais vous avez ironisé sur le QI des gens de Club Dorothée, ça vole pas très très haut,
non,
ces feuilletons.
Que, ouais, non, ça vole pas haut du tout. Non,
c'est facile à comprendre. Mais,
De toute façon, c'est toujours la même histoire. C'est une fille qui habite à New York, qui est working girl, qui rentre dans son bled en province et finalement, il y a une chute de neige, elle peut pas repartir et là, elle va revoir son amour d'enfance, elle va retomber amoureuse de lui et là, c'est reparti, sa vie change.
C'est pas vrai, c'est chaque fois le même. Scénario,
mec, c'est vrai.
C'est génial.
C'est la même chose.
Vous restez avec nous.
Avec grand plaisir.
C'est Noël. Cartman est avec nous.
Oui, c'est notre invité. Dans un instant, on va découvrir nos indispensables du jour sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Dans un instant, Philippe, on découvrira nos indispensables du jour avec Thierry Geffretin et Clément Le Saffre. Et nous sommes toujours avec notre invité Cartman, qui lui est sur la scène du Trévis pour son One Man Show One jusqu'au 4 janvier.
Cartman, sous votre vrai nom, Nicolas Bonaventure, mais sur l'affiche, il y a écrit Cartman. Il vient d'où ce nom?
C'est Coé qui avait trouvé ce surnom à l'époque où j'ai démarré la radio, en fait, parce que c'était un peu d'une époque où tout le monde avait un surnom, c'était comme ça. Et moi, j'avais pas trouvé. Puis un jour, il m'a dit, toi, t'as la même voix que Cartman, le mec de South Park. On va t'appeler Cartman, tu changeras après.
Vous savez ce que j'adore? C'est que ça ressemble pas du tout, les voix.
Je m'excuse d'avoir menotté Billy Turner par la cheville en haut d'un poteau.
Tu sais que ce n'est pas le problème.
Ok, je m'excuse d'avoir menotté Billy Turner par la cheville au poteau et de lui avoir filé une scie, de lui avoir dit que j'avais empoisonné son nez et que le seul moyen d'avoir l'antidote, c'était de se couper la jambe.
Sans déconner, ça ressemble pas du tout.
Mais à l'époque, ça ressemblait un peu. Parce que je sortais un peu le soir, à l'époque, beaucoup. Je parlais un peu comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, un peu, c'était entre, je sais pas.
C'était quoi, au petit matin, vous parliez comme ça? Ou le soir, en sortant
matin,
de boîte?
Au petit matin. Mais c'était un peu la même chose, en fait, pour moi, ce soir.
C'était pas une légende, vous étiez très jeune. Vous faisiez la nuit blanche.
Ça m'arrivait souvent,
D'accord.
De faire 48 heures d'un coup. Mais c'était dur.
Vous pensez quoi du super-héros? Dites-le moi avec la voix de Cartman.
Oh, mais j'adore ça! Non, c'était un peu Marge Simpson, là.
Ça peut pas mieux tomber. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est l'heure de nos indispensables à présent et on va parler de super-héros avec vous, mais lequel?
Bah écoutez, rien de moins que le plus connu d'entre tous, je veux bien sûr parler de Superman.
Oh là, quel mec!
Superman, le tout premier super-héros, celui qui vole à la vitesse du son, qui possède une force surhumaine, une peau à l'épreuve des balles, des yeux qui tirent des lasers, bref, le super-héros par excellence, quoi. Bah, sauf qu'aujourd'hui, Superman, il serait devenu ringard.
C'est quoi cette histoire ?
Eh bien, tout est parti d'un
On a pété un disque en plus.
Tout est parti d'un article du magazine américain Variety, hein, qui est un grand magazine sur le cinéma. Ouais. Il raconte les plans du studio Warner Bros. Pour ses films de super-héros. Alors, pour l'info, Warner détient les droits d'adaptation de plein de super-héros bien connus. Il y a Batman, il y a Aquaman, il y a Flash, il y a Wonder Woman et donc Superman, on y vient. Dans cet article, en fait, on apprend bien que la Warner ne sait pas quoi faire de Superman et de son alter ego Clark Kent. Elle n'a aucune idée. Il n'y a aucun film en vue dans les prochaines années. Le dernier, c'était Man of Steel. Il est sorti en 2013. Rendez-vous compte, c'est une éternité. Ouais. Aujourd'hui, il sort 5 à 6 films de super-héros par an. Il n'y en a pas un seul sur Superman. Alors, la raison, bah, c'est que la Warner, elle ne sait pas, et c'est les mots qui sont cités, elle ne sait pas comment rendre Superman pertinent pour notre époque.
Mais alors en quoi Superman serait devenu ringard, Clément ?
Mais on peut dire en fait déjà qu'il a mal vieilli, Superman. Il a été créé en 1938, c'est vraiment le tout premier super-héros tel qu'on les connaît aujourd'hui, et il n'a pas vraiment évolué. C'est toujours le même qu'à l'époque, il y a 80 ans, il est resté ce super-héros extraterrestre, hein, un demi-dieu qui défend la Terre dans son costume bleu.
Avec son slip aussi.
Alors, ouais. C'est la seule modification qui a été apportée. Il n'a plus de slip rouge aujourd'hui. Voilà. Le slip rouge a été enlevé au cinéma. Mais bon, ça reste la seule modification. Ça reste une figure christique, infaillible, qui nous surplombe tous par sa puissance. Un prophète quasiment, qui est censé guider l'humanité, rien de moins. Tenez, écoutez, c'est un extrait du film Man of Steel. Justement, le père de Superman lui explique son rôle sur Terre.
Tu donneras au peuple de la Terre un idéal à atteindre. Ils se rueront sur tes pas. Ils trébucheront. Ils tomberont. Mais le moment venu, ils te rejoindront dans le soleil calme. Le moment venu, tu les aideras à accomplir tes miracles.
Ouais, c'est ça, Superman, c'était génial. Au début, c'était hyper inspirant, on avait envie de le suivre. Ouais. Et puis, bah, c'est devenu plombant.
Là, on a l'impression de l'avoir entendu 100 fois.
Voilà, le même discours qui nous guide, etc. Ouais. Voilà, c'est ça, on a l'impression de voir une parodie de super-héros. Et puis, à côté, le monde a changé aussi. L'Amérique, elle a perdu de sa superbe. Hein. L'enfant élevé dans le Midwest par des fermiers, devenu le symbole de cette Amérique blanche, catholique, bah, il fait de moins en moins rêver les gens qui ne s'associent pas à ce rêve américain. Et les gens ne s'identifient plus, tout simplement, en Superman. Il n'y a qu'à voir le box-office, hein, Man of Steel. Il avait rapporté 600 millions d'euros en 2013. C'est une jolie somme, vous allez me dire, c'est pas mal.
C'est énorme, 600 millions. Ouais.
Sauf que si on le compare à tous les autres films de super-héros, bah, ce n'est que le 30e film le plus rentable. C'est quand même pas terrible pour l'homme le plus puissant de l'univers.
Alors comment faire pour rendre Superman adapté à l'époque ?
Bah déjà, il faut partir du constat qui est très simple, c'est que Superman doit être plus universel. Il doit s'adresser au public dans toute sa diversité. Les blancs, les noirs, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les américains, les français, les chinois aussi. C'est très important, les chinois aujourd'hui dans le marché du cinéma. Ouais. Mais pour ça, il faudrait commencer par lui retirer son étiquette de symbole de cette Amérique triomphante qui va sauver le monde. Donc tenez, une histoire parmi d'autres que moi j'adore. Et qui pourrait dépoussiérer l'homme de fer.
Ah, mais celle... ça, c'est vos propositions, c'est voilà. Pas des infos de chez Warner.
Propose, non,
c'est un édito, là, maintenant.
Je sais que la Warner vous écoute tous les jours, Philippe, ouais. Donc on leur glisse cette petite idée. Okay. Ça s'appelle Superman Red Son, le fils rouge. C'est une BD qui a été publiée en 2003. L'auteur, c'est Mark Millar, un anglais. Il a une idée hyper forte. Et si Superman bébé avait atterri non pas au Kansas, mais en URSS.
Oh,
ben voilà. Donc le postulat, déjà, on a envie de savoir ce que ça va donner. Et en fait, donc, c'est donc un Superman qui est bercé par les valeurs du communisme, avec un costume frappé non plus du S, mais du marteau et de la faucille. Il faut le voir quand même. Donc c'est un super parti pris.
Je sais pas si c'est très glamour, hein, je vous dis franchement. Hein.
Alors, le costume est assez peu glamour, mais l'histoire est hyper originale. C'est très fort. On n'a jamais vu ça. Personne n'a vu cette histoire de Superman. Donc moi, je vous recommande vraiment de la lire déjà. Et je recommande vraiment à la Warner de l'adapter. Alors vous allez quand même me dire qu'envoyer Superman en URSS, on a vu peut-être plus moderne comme histoire.
Non, surtout que l'URSS n'existe plus. Donc
Surtout que l'URSS n'existe plus.
Ah, putain, c'est vrai.
Mais oui.
Ah, oui, exactement.
On a tendance à l'oublier.
C'est la Russie maintenant.
C'est vrai.
Mais il n'y a peut-être pas besoin en fait, d'aller jusqu'à l'URSS. Il suffirait juste de la transposer à notre époque et de garder le message central, à savoir que les États-Unis ne sont plus le centre du monde et que Superman n'est pas au service des États-Unis.
Il pourrait très bien tomber à Vierzon ou à.
Exactement, ou à Mulhouse. Superman protecteur de Vierzon. Ouais. Moi, je veux voir ce film, tout simplement.
Oui. Bon, alors on a vu le Superman communiste. D'autres solutions ?
Il y en a une autre qui, là, est un peu
Vous faites Marie Cartman.
Hein. Un peu plus crédible.
Tu t'attendais pas à ça.
Non,
hein.
Quelqu'un reboit quelque chose ? Non, moi, je vais prendre une chuse, s'il vous plaît.
Voilà. Je vous confirme que ce n'est pas de l'eau dans ma gourde.
Non, c'est ça, voilà.
On pourrait lui faire prendre au personnage un virage à 180 degrés, par exemple, ce serait un peu moins radical. Et ça a déjà été fait avec d'autres super-héros, par exemple, dans les comics. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Thor, hein, le dieu nordique tout-puissant, aujourd'hui, Thor, c'est une femme dans les comics. Et que Captain America, autre symbole de cette Amérique triomphante, Captain America, il est afro-américain aujourd'hui. Et d'après Variety, c'est une des pistes qui est envisagée, puisqu'ils ont contacté un acteur noir Ah. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais imaginez si ça arrivait demain, Superman noir. Ce serait incroyable.
À voir, vous serez le premier à nous le dire.
Ouais. Je trouve ça de moins en moins incroyable finalement qu'il soit noir, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le. Maintenant, dès qu'il y a un personnage qu'on a envie un peu de dépoussiérer, on dit tiens, on va mettre un noir à la place. Donc je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il pourrait encore trouver autre chose. Ouais. Mais bon, s'il faut ça pour faire revivre Superman, voilà. Mais c'est dommage.
Paul, une tourtelle. Merci Clément, vous restez avec nous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Cartman qui est notre invité. On va revenir, Philippe, à son actualité dans un instant. On continue à faire le tour de nos indispensables du jour avec Thierry Geffroy.
On va parler de musique. Bonjour Thierry.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Tribute to Michel Legrand, je vais le traduire. Hommage à Michel Legrand. C'est le titre du nouveau disque de l'accordéoniste Richard Galliano et que vous avez beaucoup aimé, Thierry.
Oui, Richard Galliano, c'est un très très grand artiste et pas seulement un interprète, hein, il est compositeur aussi. Qu'il joue du Bach, Jean-Sébastien Bach, qu'il joue du Astor Piazzolla, du jazz, du Nino Rota, il joue juste, il est vraiment dans l'esprit des compositeurs et c'est encore vrai avec Michel Legrand.
On a reconnu Les Moulins de mon cœur, musique de Michel Legrand évidemment, interprétée ici par Richard Galliano. Pourquoi cet hommage, Thierry ?
Je pourrais vous répondre, c'est la rencontre entre deux très grands artistes. Hein. Mais en fait, c'est beaucoup plus que cela. Cet hommage est très très personnel pour Richard Galliano.
C'est un hommage, je dirais même, c'est un hommage d'amour. On était très amis, très proches avec Michel Legrand et j'ai vraiment éprouvé ce besoin de lui rendre hommage et de jouer toutes les mélodies que j'aimais de lui. De son vivant, je lui avais rendu hommage, ça l'avait beaucoup touché et il était émerveillé par ce son.
Voilà. Ça pourrait être presque la version originale.
Exactement.
On a l'impression de voir un film avec musique de Michel Legrand et jouer ainsi. On n'a pas du tout l'impression que c'est une réécriture, on a l'impression que c'est de l'écriture.
Nous sommes d'accord.
Hein, c'est dingue. Mais
en effet, tout y est. C'est-à-dire la musique, l'esprit, l'atmosphère propre à Legrand. Ouais. Et puis, ce que j'appelle la patte de Richard Galliano.
Je suis souvent parti de ses interprétations en tant que chanteur et de les orchestrer à ma manière, en essayant de, non pas simplifier, mais épurer les choses. Lorsque je joue, de jouer plutôt des notes simples plutôt qu'un accord. Et puis aussi, dans l'orchestration, dans les endroits où je pourrais mettre 10 notes, si je peux en trouver 2 ou 3 bonnes, je vais choisir celle-là.
Moi, je ressens une espèce de mélancolie. Alors, est-ce qu'elle est dans la musique ? Est-ce qu'elle est dans les arrangements ? Ou est-ce qu'elle est dans votre cœur parce que Michel est parti ?
C'est un peu tout ça, je crois. C'est un peu tout ça. Il y a une grande tristesse, une mélancolie. Les mélodies sont très mélancoliques. Ce sont des mélodies de... Michel a toujours écrit des musiques pleines d'amour. Toutes ses chansons sont des chansons d'amour. Même des chansons par rapport à l'adolescence, hein. Un été 42, Les Moulins de mon cœur, ce sont que des chansons d'amour. Et le son de l'accordéon, le son que Michel aimait d'ailleurs, c'est ce son de registre de flûte dans la boîte de résonance. L'accordéon, c'est un son très doux, qui est aussi très, très émouvant, je crois. Hein. Après, il y a la manière de jouer, bien sûr.
On l'entend même, il joue tellement doucement qu'on l'entend même respirer.
Ouais, mais l'accordéon, ce que je lui ai dit, son accordéon, il vit. Il vit, quoi.
Ouais, c'est pas Sébastien Patoche qu'on entendrait respirer.
Richard
Galliano et le quintet à cordes de Prague pour cet hommage à Michel Legrand. Le disque est édité chez Jade.
Oui.
Il sera en concert à Chinon le 14 décembre.
Ne le manquez pas.
Prochain.
C'est un immense artiste. Voilà. Et quelqu'un de tellement généreux, sympathique. Voilà. Alors, allez le voir.
Merci beaucoup, Thierry Geoffroy. D'autant que Chinon, on a déjà pris un petit peu avec Clément Le Sartre. On y était, non?
Je vous resserre, Philippe, pas
bien sûr.
Et vous écoutez quoi comme musique?
Moi, j'écoute tout. Moi, j'écoute beaucoup de jazz, en fait. Donc, ouais. Je suis très, très client de ça. Mais après, ouais, mais j'écoute tout. Et j'écoute PNL aussi. C'est-à-dire, je fais le grand écart. Hein.
Ah oui.
Vous connaissez PNL?
Non, pas tellement.
Vous connaissez pas ODD?
Non, ODD, vous m'avez dit ce que c'était.
ODD? Je la passe la détail, la pécou, la viscère, des regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet des affaires, des plans dans la planque un peu trop peinée. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, du cisselet pectoraux gainé. Faut m'arrêter parce que je vais la faire volontiers, je vous préviens.
Waouh, je peux dire, c'est pas facile de passer après ça. Vous restez avec nous, Cartman.
Avec plaisir.
On vous avait dit qu'il avait du talent.
Et la dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant avec notre invité Cartman sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est la dernière partie de Culture Média avec notre invité Cartman qui est jusqu'au 4 janvier sur la scène du Trévis pour son One Man Show One.
Et avant ça, il en a fait des choses. Vous avez animé avec Vincent Desagna, le matin, à la matinale de D17, vous avez tout fait. Vous avez déclenché l'alarme incendie pendant le direct.
Ouais.
C'était volontaire ou involontaire?
Ah non, c'était très volontaire. C'est parce qu'on voulait faire une fête dans le hall d'entrée. Et en fait, quand on passait dans les bureaux pour dire aux gens rendez-vous dans le hall à 10h, tout le monde disait ouais, bon, on verra si on peut venir. Donc on a déclenché l'alarme incendie, tout le monde est descendu et on a eu tout le monde en même temps, on a pu faire une grande fête dans le hall.
Voilà. Et après, vous étiez convoqué par la direction ou pas?
Ah oui, régulièrement. Mais nous, on avait à la direction, vraiment, c'était, ils nous disaient, quand ils nous convoquaient, ils nous disaient, bon, bah rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, on dit, parce qu'ils savaient qu'il y aurait un point à faire forcément.
Voilà. Vous avez failli perdre un doigt en direct à la télé?
Ah ouais, ça ouais.
Vous l'avez toujours le doigt?
Ouais, mais je l'ai, vous voyez, j'ai perdu, je peux plus plier. Ouais, ouais, j'ai mis un petit coup de couteau.
En testant une recette de cuisine, ouais. Non mais il a fait un tuto. Le tuto, c'était comment couper une pomme rapidement et facilement.
Voilà. Mais pas un doigt, quoi.
Bah ouais, en fait, j'ai eu un petit. Bah, c'était 7h30 du matin. J'étais pas très en forme et j'ai voulu absolument faire le tuto moi-même.
Ouais.
Et ben, j'ai coupé deux bouts de pomme. Le troisième, c'était mon doigt. Et c'était tout ça en direct à la télé. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir dire aux gens. Et je me souviens de la phrase que j'ai dit. J'ai dit, écoutez, je vais devoir partir. Je crois que je viens de me sectionner le doigt. Je laisse Vincent et Stéphanie faire la suite de l'émission et tout. Et moi, je suis parti me faire recoudre pendant l'émission.
Voilà. Si Laurent Roquier était là, il vous dirait, c'est ce qu'on appelle un pépin.
Ouais.
Vous deviez tourner votre premier film avec Will Ferrer. Will Ferrer, il en est où ce premier film alors?
Et ben, celui-là, il est un peu tombé à l'eau malheureusement, mais j'ai continué à écrire et je travaille avec Amanda Sterz en ce moment sur un autre film.
Voilà.
C'est une idée qu'elle a eue et que je développe. Bah, je vais essayer de pas trop en dire, mais c'est dans l'esprit du spectacle. C'est un truc un peu sur les années 90 aussi. Ça correspond exactement à ce que je fais sur le spectacle.
Vous avez toujours votre boîte de prod?
Ouais, ça, c'est toujours.
Elle s'appelle, si je suis bien informé, Smoker Productions.
Ouais.
Ça veut dire les productions du fumeur.
Ouais.
Vous étiez un gros fumeur?
Ouais, de tout en plus.
C'est passé ou pas?
Bah, tout est passé, ouais. C'est-à-dire que j'ai diminué, je suis passé au début, je fumais pas que des cigarettes, j'ai arrêté tout la
reste. Ça, je sais. Alors, je vais vous dire, un de vos anciens collègues, c'est Coé, un jour je l'ai croisé, il m'a dit à un moment donné, il parlait de vous, le stock de shit du monde entier a baissé par sa faute.
Mais j'étais jeune, je voulais pas fumer de cigarettes et je m'étais c'était des conneries de jeunesse, c'était et puis au fur et à mesure des années, comme je me suis rendu compte quand même que ça avait une petite tendance à me rendre un peu con et un peu débile et un peu casanier et un peu je me suis dit je vais arrêter, je suis passé à la cigarette et puis après j'ai arrêté la cigarette et puis maintenant je vais bientôt passer aux légumes. Enfin, on en a parlé tout à l'heure.
Vous en parlez de ça dans votre spectacle? Est-ce que vous dites aux jeunes que vous voyez fumer, vous leur dites quelque chose ou pas du tout? Il faut laisser faire.
En fait, ce qu'il y a, c'est que moi ça correspond aussi à une époque où moi ça correspond à mon insouciance et tout. C'est pas un truc très franchement que j'ai envie de recommander, je vais vous le dire honnêtement, que ça soit aux enfants des autres ou même aux miens.
Un mot, je vais être grave pendant quelques instants pour comprendre ce que vous faites et qui vous êtes. Vous avez perdu votre maman.
Ouais.
Votre maman, elle était conteuse.
Ouais, c'est ça.
Ça veut dire quoi, conteuse? Et qu'est-ce que vous avez gardé d'elle sur ce chapitre des contes et de l'histoire?
Et ben en fait, ma mère était bibliothécaire à la section jeunesse. Voilà, donc ma maman qui a grandi en Corse, qui est une fille de berger, qui a parlé français à 6 ans, parce qu'à l'époque, on allait à l'école, maternelle, c'était très peu d'enfants qui allaient. Donc elle a parlé corse pendant 6 ans, puis ensuite elle est allée à l'école, elle a appris le français, elle a voulu vivre dans les livres, voilà. Et en fait, elle était conteuse pour les enfants, et quand elle est rentrée en Corse, elle est devenue conteuse dans un bibliobus, donc elle faisait le tour des villages, dans un petit bus, pour aller raconter des histoires en langue corse aux enfants. Moi, j'ai grandi là-dedans, ça a développé mon imagination, et surtout, ça m'a amené vers c'est-à-dire que moi, la télé et tout ça, je l'ai regardé assez tard finalement. J'avais déjà 7-8 ans.
Mais c'est un peu ce que vous faites maintenant. Vous prenez votre bus et vous allez en tournée, raconter des histoires.
Ouais, c'est un peu ça, mais je pense très honnêtement et sans faire de pathos que ma mère aurait été très très fière de ce que je fais aujourd'hui, beaucoup plus fière de ce que je fais aujourd'hui que ce que j'ai pu faire à la télé ou à la radio par exemple.
Ouais, mais vous aurez quand même dit d'éteindre ce pétard. Ouais. Je rappelle que c'est pas bon. Merci beaucoup, Cartman. Je rappelle, One, c'est au théâtre Trévise.
Exactement.
Jusqu'au 4 janvier.
Exactement. Oh là 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 là.
C'est Noël, non?
Ah là, c'est magnifique. Là, vous savez quoi? là là, j'ai envie de tous vous embrasser.
Merci, J-21. Il embrasse Thierry Geffrotin et Clément Le Saffre aussi. Et là, il est très heureux. Il va nous remettre une tournée. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va recevoir Yannick Le Tranchant et Alix Bouillaguet de France 2. Ils vont parler de la grande émission qui aura lieu demain soir, présentée par Thomas Soto et Léa Salamé. Pardon, sont les chevilles ouvrières de l'émission de demain pour la partie média. Et les comédiens Sarah Giraudeau et Nicolas Duvauchel pour la partie culture. Génial. Merci d'avoir été avec nous. Salut de Céline Dacosta. Je ne connais plus votre nom parce que je voulais saluer Hélène Manarino qui nous écoute et qui va
retourner.
Je ne dis pas où elle va retourner, mais elle va y retourner. Et à demain.
À demain, c'était Philippe Vandel. Dans un instant, vous retrouvez Anne Romanoff et toute sa bande avec leurs invités aujourd'hui, Patrick Poivre d'Arvor et les frères Taloche sur Europe 1. Ouais.